Bonjour, ici Olivier dans le podcast Éco-Quartier. Progrès réel ou lavage de conscience? Avant de continuer, je tenais à vous faire part d'une nouvelle des plus déplaisantes. Maëlle ne pourra malheureusement plus faire activement partie de cette émission, mais nous aurons toujours le bonheur d'entendre sa voix de temps à autre. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé des éco-quartiers en long et en large, ainsi que de leurs origines. À présent, voici un petit historique des éco-quartiers. Le premier est apparu en 1996 à Freiburg, en Allemagne. Il s'agit du quartier de Vauban. En effet, il s'agit du premier quartier à mettre en avant les principes écologiques, tels que la vie sans voiture ou les énergies renouvelables. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il est également un des premiers à introduire la participation des habitants et une grande mixité sociale. Depuis, beaucoup d'autres villes ont suivi cet exemple à leur façon, et ce, avec plus ou moins de succès. Gland, une petite ville de Suisse, n'a pas dérogé à la règle lorsqu'elle a décidé d'entamer la construction d'un éco-quartier nommé Eikenhout pour accueillir 1200 habitants. Ça représente environ 10% de la population totale de la ville, ce qui est énorme et donc, vous l'imaginez bien, a soulevé des contestations. Mais le résultat est là. Les grues ont envahi le terrain et les premiers habitants sont arrivés au mois de juin 2013. C'est pourquoi nous sommes allés interroger le maire de la ville, M. Crétigny, ainsi que M. Montfort, le chef du projet Eikenhout chez Losinger Maradi. M. Crétigny nous parle des premières étapes du projet.
C'est Losinger Maradi, qui est une entreprise générale, qui a contacté les propriétaires, qui a fait des promesses de rachat aux différents propriétaires et qui a mis en avant un projet. Alors, on a travaillé simplement sur ce projet ensemble avec Losinger pour faire un concours d'urbanisme. Alors là, on a demandé des sous, bien sûr, au conseil communal, donc on a fait un préavis au conseil communal pour pouvoir présenter un projet d'urbanisme qui débouche ensuite sur un plan partiel d'affectation. C'est comme ça que je gère les choses, c'est une planification territoriale qui a valeur de loi après pour le terrain. Donc ce processus a fonctionné, on a soigné la chose, on a fait toute une présentation aussi à la population pour montrer qu'est-ce qu'on voulait faire sur ce quartier. Et puis, une fois que le PPA, ce plan partiel d'affectation, a été accepté, là, alors est rentrée la question de l'architecture elle-même et de la demande de permis de construire.
Puis, le projet a évolué pour devenir un quartier écologique. Nous vivons dans une région en plein essor, et donc, les appartements se sont vendus rapidement. Pourquoi cet engouement à vivre dans un éco-quartier? Eh bien, cela représente, à première vue, plusieurs avantages. Le premier de ces avantages, à mon sens, est que l'on se sent moins coupable de la pollution grandissante de notre planète. On vit dans un éco-quartier, on trie, parfois, ses déchets, etc. Ça fait du bien au moral et vu que l'écologie est plutôt à la mode, cela classe auprès de ses amis. Bien sûr, il y a d'autres aspects, tels que, vu que c'est un concept assez récent, les logements sont souvent presque neufs. Ou alors, le mélange des couches sociales souhaitées est attirant, ainsi que la participation des habitants dans la vie du quartier. Si vous voulez vous investir pour une communauté, il n'y a pas mieux. Vous vous en rendez bien compte. Les avantages sont nombreux et il est difficile de trouver une tâche sur ce tableau idyllique. De là, il est facile de se demander si les gens vont dans ce éco-quartier pour les derniers avantages que je viens de citer, ou simplement pour dire qu'ils y sont et se donner une bonne conscience. Nous avons interrogé Sandro Kadacin, sociologue urbain.
Je pense que les contraintes dans ces éco-quartiers sont telles qu'on est obligé de changer. On ne te demande pas de chauffer pas avec du pétrole parce que tu n'auras pas de pétrole. C'est des pompes à chaleur, c'est des énergies alternatives aux pellets ou c'est du gaz quand c'est un peu moins récent. Donc il y a déjà dans l'éco-quartier l'infrastructure pour te changer et pour t'adapter. Et deuxièmement, évidemment, la situation change complètement si on parle d'éco-quartier à Zurich ou à Genève ou si on parle d'éco-quartier, à Yverdon. Ou à Sion, les gens qui veulent habiter à Genève et à Zurich, ils n'ont pas vraiment le choix quand il y a des habitations, s'ils sont éco ou pas éco, ils sont obligés d'y aller parce que s'ils veulent vivre dans la ville, il y a une lutte pour chaque mètre carré d'habitation qu'on peut avoir. Et donc, ce n'est pas la même chose que si on est à Yverdon et Sion, par exemple, où il y a certainement déjà une sélection des gens qui ont une sensibilité écologique pour aller habiter dans ce type d'habitation.
Ainsi, le changement de comportement en faveur de l'écologie n'est pas un choix que les habitants des éco-quartiers doivent effectuer, mais il s'agit bel et bien d'une obligation qui est due à l'environnement dans lequel ils vivent. Dans le prochain épisode, je parlerai des motivations des habitants et des mensonges publicitaires qui nous sont servis à propos des quartiers écologiques. C'était Olivier dans le podcast Éco-quartier. Progrès réel ou lavage de conscience ?